Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans 24 jours exactement, nous fêterons Noël, une fête familiale pour beaucoup sans réel sens religieux. En France, on s'interroge même sur l'opportunité qu'il y a à exposer des crèches dans l'espace public. Alors comment comprendre Noël et faire comprendre cette fête qui, pour nous chrétiens, est rien moins que la venue de Dieu dans notre monde ? Voilà pour cette émission Entrée dans l'Avent. Je reçois ce matin le père Bernard Berthuis, qui est curé de la paroisse Saint-Nicolas à Toulouse et fondateur de la radio. Bonjour mon père.
Bonjour.
La petite sœur Marie-Ève, vous êtes petite sœur de la communauté de l'Agneau, qui est à Toulouse aussi. Bonjour.
Bonjour.
Et petite sœur Anastasia, petite sœur aussi de la même communauté de l'Agneau à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vaste programme que de parler de l'Avent et de Noël à frais nouveaux. On se disait en préparant l'émission que le mieux était peut-être de relire ces récits des évangiles. Père Bernard Berthuis, vous les lisez, vous les relisez et vous les lisez même en communauté. Vous ne vous lassez pas de lire le texte de la Nativité ?
Ah ben du tout, pour la seule et unique raison, c'est une joie que de savoir qu'à un moment de notre histoire humaine, Dieu s'est fait homme en Christ, qu'il est venu vivre notre vie et de se dire, on a un exemple formidable là, sous les yeux, en regardant Jésus, en l'écoutant parler, écoutant ce qu'il a à nous dire, ça transforme totalement l'être au niveau intérieur et dans le relationnel avec les autres.
Avant de commencer aussi, j'avais une question pour vous, mes sœurs. Est-ce que vous croisez, puisque donc on aura le temps de l'expliquer au long de cette émission, vous vivez de la Providence et puis vous allez à la rencontre des gens dans la rue. Est-ce que vous croisez des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou des évangiles et parfois même du récit de la nativité, qui ne font pas de lien entre Noël et ça ou pas? Ou est-ce que de fait, la plupart du temps, les gens quand même situent à peu près les choses, sœur Marie-Ève?
La plupart du temps, les personnes connaissent bien l'histoire de Noël et les pauvres aiment Jésus. Mais parfois, c'est des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est arrivé.
Ça arrive à Toulouse.
C'était pas à Toulouse, c'était dans l'Aude.
D'accord, donc à Toulouse, ils connaissent tous. Non, je plaisante. Alors, père Bernard Berthuis, on peut lire certains passages de la Nativité. Pour introduire ce texte, qu'est-ce que vous diriez? Quel est le contexte un petit peu général avant qu'on lise ce récit précis?
Ah ben, c'est tout simple. Marie et Joseph vont à Bethléem parce qu'il va y avoir un recensement. Et ce recensement les oblige à se déplacer. C'est du moins ce qui se dit dans l'évangile de Luc. Et là, eh bien, en arrivant à Bethléem, ils ont des difficultés à trouver de la place et sont inquiets parce que Marie attend un enfant, un bébé. Et donc, de soi, comme c'est le moment où il faut accoucher, eh bien, il lui est très difficile de trouver une place. Et ils s'en vont tout simplement à un lieu qu'on appelle une étable, une crèche, bref, un lieu qui n'est pas nécessairement reconnu comme étant le lieu idéal pour accueillir un nouveau-né.
Alors, je vais lire donc certains passages donc dans l'évangile selon Saint Luc. Or, il advint, comme ils étaient là, donc à Bethléem, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils, premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. Et puis, un peu plus tard, il advint que les anges, donc il y a des anges qui tournent autour de cette crèche ou des bergers et qui disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance ». Et puis, un peu plus loin, il est dit aussi, on y reviendra, enfin parmi d'autres choses, hein, « Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Puis les bergers, puisqu'il y a des bergers qui sont venus à la crèche, s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui leur avait été annoncé. » Alors, ce récit fait, est-ce qu'il y a des choses dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, qui préparent en fait ce récit évangélique?
Ah oui, il y a évidemment le prophète Isaïe tout particulièrement. Alors pour les gens qui sont un peu au courant, simplement d'aller voir les chapitres 8 et 11, eh bien ils auront une annonce très claire de la venue d'un enfant qui s'appellera Emmanuel, ce qui en hébreu signifie « Dieu avec nous ». Ce qui me paraît très important, c'est donc que c'est annoncé textuellement que cette venue de Noël est la présence même de Dieu parmi les hommes. Un Dieu qui se dérange, qui accepte de sortir de lui d'une certaine manière en la personne d'une de ces personnes, justement du Fils, eh bien, tout simplement pour venir vivre une vie d'homme et démontrer dans une vie d'homme ce que doit être l'humanisme, l'humanité des hommes.
Comment, pardon, hein, je pose des questions simples, mais en même temps, c'est le propos de cette émission, c'est de revisiter à frais nouveaux un petit peu tous ces grands mystères. Ce que vous venez de dire, évidemment, quand on est chrétien, on a l'habitude de l'entendre. Mais comment vous expliquez qu'en fait, il y a quand même un certain nombre de personnes, comme disaient les petites sœurs, rapidement, qui savent à peu près ce que c'est que Noël, la naissance de Jésus, etc. On est face donc à un mystère immense, quand même, dire que Dieu vient dans ce monde, ne serait-ce que de prononcer cette phrase, on devrait être soit pris pour un fou, soit ça devrait interroger les gens. Comment on peut s'habituer, en fait, à entendre quelque chose d'aussi grand, et puis souvent que ça puisse nous passer au-dessus de la tête?
Moi, je pense qu'il y a une part, pour comprendre, de découverte, à travers un texte tout simple, les évangiles. C'est là où, effectivement, en voyant vivre cet homme, le Christ, on se dit quand même qu'il a une manière d'être, une manière de vivre et une manière de se donner pour que finalement on conçoive aisément que c'est peut-être le moyen le plus idéal pour essayer de faire de la vie quelque chose de substantiel au bon sens du terme, de magnifique en soi. Le don que Dieu fait à l'homme en se faisant homme, c'est une invitation à ce que cet homme, en vivant pleinement son humanité, puisse devenir à son tour Dieu, ce qui était la phrase de saint Irénée de Lyon. Et je trouve que c'est simple, c'est de se dire... même Zundel, qui est un penseur chrétien, dit simplement que l'homme atteint à la divinité lorsqu'il fait don de lui-même. Et le Christ nous l'a démontré, et Dieu nous l'a démontré en la personne du Christ, qui jusqu'au bout de sa vie, justement, s'est donné aux autres, aux malades, aux gens qu'il rencontrait, toujours un accueil, toujours une écoute. Et je trouve que c'est un être merveilleux à qui on a envie de ressembler.
Les petites sœurs, deux petites sœurs, on aura envie de vous poser la même question. Enfin, je vous pose la même question. C'est vrai que j'imagine que vous, si vous avez donné votre vie dans la vie religieuse comme ça, c'est que vous vivez de ce mystère. Je ne sais pas, est-ce que vous vous dites ça parfois quand vous êtes en apostolat, à la rencontre des gens dans la rue, mais voilà, Dieu va venir, ou il est venu, et puis en fait, les gens s'habituent à cette formulation. Est-ce qu'ils sont... Il y a une manière d'être blasé ou de vivre un grand mystère de manière indifférente. Est-ce que c'est quelque chose qui vous frappe aussi?
C'est sûr qu'on est dans une...
Sœur Anastasia.
Bonjour. On est dans une société, en tout cas aujourd'hui en France, où on a... C'est un discours qu'on a entendu, ou en tout cas les générations passées ont beaucoup entendu, et qui peut-être est devenu un fond sonore auquel on fait pas attention. Du coup, on se rend pas compte du sens des mots, je crois, mais parce que, en tout cas dans mon expérience personnelle, ça demande une rencontre personnelle avec Dieu et avec Jésus pour me rendre compte de ce que signifient ces mots, quoi. Il est venu, il s'est fait petit enfant, il est venu dans la chair d'un homme, il s'est incarné, il a vraiment vécu tout ça. Je vois bien, il y a une période de ma vie où ça me paraissait très très loin. Et pour que ça devienne personnel, pour que ça me concerne et que ça change ma vie, il faut que je rencontre le Seigneur, quoi. Il faut que je fasse une rencontre personnelle avec Dieu. Et que ce soit le mystère de Noël ou tous les autres récits de la vie de Jésus. Et c'est vrai que... Mais si on y réfléchit, même sans croire, un Dieu qui est tout puissant et qui se fait tout petit enfant, c'est sûr qu'en fait, c'est une nouvelle toujours inattendue et toujours extraordinaire. Et effectivement, qui dans un pays comme la France, on a l'impression que bon, on l'a tellement entendu qu'on fait pas attention au sens des mots.
Alors, c'est l'intérêt de cette émission, c'est d'essayer d'aider à raviver nous redonner peut-être le sens de ce mystère. Père Bernard Berthuis, sur le récit donc de la nativité, on a lu là donc en Saint-Luc, et puis on peut le lire en Matthieu aussi de manière plus rapide. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'historicité de ces récits? Comment étaient informés ces deux évangélistes? Est-ce qu'on est sûr à peu près de ce qui est dit? Et comment vous pouvez nous prouver que ce ne sont pas des mythes?
Oui, la tradition de l'Église, qui est bâtie sur du témoignage, nous révèle que Marie a été, j'allais dire, très proche de Luc, et Luc a été très proche de Marie. C'est ce qui fait que c'est le seul évangile où ont lieu les textes de la nativité. Et donc, on pense effectivement que Marie a fait des confidences à Luc, et que c'est une des raisons pour lesquelles on peut trouver ce récit tellement agréable, tellement beau, et puis tellement prospectif, que... Luc nous propose et qui nous rend facilement heureux, quoi, si je peux dire.
Quid de la date? Parce que parfois on dit que Jésus ne serait pas né exactement, donc en l'an 0, qu'il serait né avant, et puis est-ce qu'il est né vraiment un 24 ou un 25 décembre?
Tout à fait. Bon, on a dit beaucoup de choses à ce sujet. Je pense qu'à l'époque, ils ne tenaient pas des registres officiels. Donc, savoir la date exacte de la naissance de Jésus, c'est difficile aujourd'hui notamment. Pardon. Et ce qui me paraît très, très important, c'est de savoir qu'on a choisi une date et un moment du circuit des saisons pour situer la venue du Christ au moment où les jours recommencent à grandir, pour suppléer un petit peu à un mythe païen où on faisait le culte au soleil, parce que le soleil recommençait à prendre place petit à petit dans la vie des hommes. Et donc on a trouvé tout à fait intéressant de la part des chrétiens de se dire que le Christ était bien placé pour être la lumière des hommes de par sa vie, de par ses paroles. Et donc on l'a choisi ce jour-là.
Alors, vous me disiez, petite sœur Marie-Ève et petite sœur Anastasie, en préparant cette émission, que l'Avent, c'est pas que se préparer au mystère de la Nativité, c'est aussi se préparer à un mystère plus grand qui est le retour du Christ dans la gloire. Alors, expliquez-nous, peut-être vous, petite sœur Marie-Ève, c'est comme une poupée russe, il y a plusieurs étages ou plusieurs mystères à l'intérieur du mystère.
Oui, tout à fait. Alors, pendant l'Avent, donc on se prépare évidemment à Noël, c'est cette venue, mais aussi on demande au Seigneur de revenir. Et voilà, il y a cette venue, ce retour du Christ glorieux que toute l'Église attend et appelle à chaque Eucharistie. Et il y a aussi même une autre venue. Saint Bernard nous dit que c'est la venue de Jésus dans nos cœurs, au quotidien, aujourd'hui, dans sa parole.
Voilà, parce qu'il faut le dire, je précise, donc pour ceux qui ne seraient pas chrétiens, Père Bernard Berthuis ou vous, hein, n'hésitez pas. Donc les chrétiens attendent, Jésus est venu dans le monde, il est né, il est mort, il a été crucifié, il est ressuscité, et il reviendra dans sa gloire. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Parce que peut-être certains auditeurs ne sont peut-être pas familiers.
Mais c'est important parce qu'il est en ce sens qu'il était fils de Dieu, donc il était... Et c'est le moment où il vit sa vie humaine et il vient, c'est lorsque justement il reviendra. Ces trois pôles de la vie du Christ sont significatifs pour nous les chrétiens, ce sont des repères. C'est-à-dire que le Christ vient en permanence aujourd'hui aussi. Et si on a le cœur disposé à l'accueillir, eh bien inévitablement il trouve habitation chez nous.
Et quand il reviendra, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ce
que dit le livre de l'Apocalypse, eh bien, c'est que simplement un nouveau monde aura lieu, des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On en a des descriptions qui sont faites chez le prophète Isaïe, à la fin du livre d'Isaïe, et je crois qu'elles sont assez magnifiques. Et là, il dit, là, plus de nouveau-nés qui ne vivent que quelques jours, plus de vieillards qui n'accomplissent son temps. On ne travaillera plus pour l'habitation d'un autre, une maison, mais pour sa propre habitation, etc. Ces livres qui sont, ces passages qui sont plus particulièrement appelés de type apocalyptique, parce qu'ils annoncent une nouveauté qui viendra, où chacun, et même les animaux, vivront en bonne intelligence, le loup habitera avec l'agneau, etc.
Est-ce qu'on sait quand ça arrivera?
Ah non, ça on le sait pas, et c'est tant mieux, mais ça nous invite à rester sur le pied de l'attente, de l'avant, de la conversion, du changement que l'on se doit de faire, parce que je trouve qu'on a besoin beaucoup de se bouger soi-même pour essayer d'abord d'essayer de rejoindre un peu mieux le Christ et réciproquement de mieux aider à ce monde à se sentir heureux, à vivre fraternellement comme des hommes, quoi.
Alors j'ai entendu dire que souvent dans l'Église, quand l'Église arrête d'être dans cette tension eschatologique, quand elle arrête d'attendre le retour imminent du Seigneur, ce qui était le cas des premiers apôtres qui pensaient que le Christ allait revenir dans sa gloire, l'Église s'affadit. Alors en tout cas, chez les petites sœurs de la communauté de l'agneau, ce semble-t-il le mystère dont vous vivez. Est-ce que justement en communauté vous attendez le retour du Christ? Est-ce que vous dites faut se préparer parce que peut-être que ça sera demain, après-demain? Et si oui, comment vous essayez de vivre de ce mystère, petite sœur Anastasia?
C'est vrai que on a un frère qui prêche souvent et qui nous dit, il est déjà âgé, et il nous dit, mais moi, toute ma vie, j'ai espéré que je ne mourrai pas et que je verrai le retour du Christ. Peut-être qu'il viendra là dans un quart d'heure, peut-être qu'il sera là dans une minute ou demain. Il nous dit ça pour nous réveiller, pour qu'on soit vraiment attentif au fait que, effectivement, personne ne connaît la date du retour du Christ, mais il l'a promis et il nous demande de veiller. Et c'est vrai que dans ce temps de l'Avent, dans notre communauté, on a... Bon, avec toute l'Église, tous les samedis soirs, on prie dans la nuit pour attendre le Christ, pour vraiment être dans cette veille. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu en ce temps de l'Avent particulièrement. Veillez, soyez des veilleurs. Je trouve que c'est un mot qui aujourd'hui parle beaucoup, notamment en France, en tout cas aux chrétiens. Soyez des veilleurs, c'est-à-dire attentifs de toute votre vie. C'est pas seulement ne pas dormir la nuit, quand on peut, pour prier, tant mieux, mais... c'est moi dans ma vie de tous les jours, dans ma relation à l'autre, dans mes pensées, dans mon cœur. Est-ce que je veille? Est-ce que je suis? Est-ce que je fais attention à Dieu qui veut venir me rencontrer quoi dans tous les instants?
Ce matin, cette émission Entrée dans l'Avent avec autour de ce plateau le père Bernard Bertuit, qui est curé de la paroisse Saint-Nicolas à Toulouse et fondateur de cette radio, Radio Présence, et les petites sœurs Marie-Ève et Anastasia, qui sont toutes les deux petites sœurs de la communauté de l'Agneau. Et donc nous essayons de parler de l'Avent et de Noël. Voilà, ces grands mystères qu'on essaye de revisiter à frais nouveaux, lourdes charges. Et en tout cas, je remercie les invités d'essayer de se prêter à cet exercice. Alors pour nous aider, Certains auditeurs sont familiers de la communauté de l'agneau et d'autres pas du tout. Est-ce que vous pouvez, l'une ou l'autre, je ne sais pas qui, nous représenter cette communauté un peu particulière, Sœur Marie-Ève ?
Alors, la communauté de l'agneau est une communauté qui a été reconnue en 1983 dans l'ordre des prêcheurs de la famille dominicaine.
Et qu'on connaît bien à Toulouse.
Oui, bien présent à Toulouse. Et nous sommes 160 petites sœurs et 30 petits frères dans une vingtaine de pays dans le monde. Et on est une communauté contemplative et missionnaire. Alors notre vie est d'abord centrée sur la parole de Dieu, qu'on médite plusieurs heures par jour, qu'on essaye d'apprendre par cœur, avec le cœur, pour qu'elle habite notre cœur, nous transforme, et que ce soit cette bonne nouvelle qu'on va annoncer au monde.
Donc j'aurais pu vous demander de réciter le récit de la nativité par cœur alors. Non, il n'y a pas de piège, allez-y, continuez.
Et comme Jésus a envoyé ses apôtres sans or ni argent annoncer son royaume, et à la suite de nos pères Saint Dominique et Saint François d'Assise, on part dans la pauvreté, demander notre pain chaque jour, au milieu du jour, deux petites sœurs, trois petites sœurs, pour annoncer un Dieu qui veut rencontrer l'homme en frappant à la porte du cœur sans s'imposer, mais vraiment qui mendie notre amour, qui est là à la porte du cœur de chacun.
Donc vous allez, du coup, vous faites quoi en fait ? Vous allez dans la rue, dans une ville comme Toulouse, vous faites comment ? Parce que vous n'avez pas les digicodes, vous ne pouvez pas taper aux portes, vous faites comment ?
Alors concrètement, on sonne aux interphones, on se présente, deux petites sœurs, on demande quelque chose à manger pour ce midi, pourriez-vous nous aider avec un morceau de pain, quelque chose ? Et on se livre à la rencontre. Et très souvent, on voit qu'on est accueilli à table, que la personne rajoute deux couverts et se confie. Et c'est vrai qu'on part toujours dans la prière, en demandant que le Seigneur conduise nos pas vers qui il veut rencontrer aujourd'hui, comme le bon pasteur qui va chercher sa brebis perdue. Et souvent, voilà, c'est des personnes en détresse qui ont crié vers le Seigneur ou qui se sont éloignées de la foi par diverses épreuves et qui se confient, qui se livrent.
Et quel est le... Enfin, vous l'avez expliqué, mais est-ce que vous pouvez le réexpliquer ? Quelle est l'intuition du fondateur ou de la fondatrice de cette communauté dans ce dénuement matériel très, très concret ? Sœur Anastasia.
C'est vrai, c'est une petite sœur.
C'est une particularité quand même de votre communauté.
Oui, c'est vrai que, en fait, l'expérience première de la première petite sœur, celle qui s'est retrouvée être la fondatrice sans l'avoir cherchée, c'est de dire, mais Seigneur, dans le monde, le mal semble vainqueur. Dans le monde, voilà, on a l'impression que ce qui est le plus fort, c'est le mal. Et cette petite sœur dit, moi, je sais que c'est toi qui es vainqueur, mais voilà, où, comment, quoi, qu'est-ce qui se passe ? Et elle a une réponse dans le cœur qui est une parole de saint Paul qui dit « En sa chair, en sa personne, il a tué la haine ». C'est-à-dire Jésus sur la croix, le moment où en fait il est le plus vulnérable, le plus offert à tout, au fait qu'on est en train de le tuer, qu'on l'a cloué sur une croix. À ce moment-là, il est vainqueur de la mort et du mal parce qu'il continue d'aimer. Et à partir de là, on voit un Dieu pauvre qui s'est fait pauvre pour nous, pour venir nous chercher où on en est. Et on peut être très très bas, quoi. Ça. D'une certaine manière, ça n'a pas d'importance. Il va jusqu'au plus bas, il y est allé, il continue d'y aller pour venir chercher chacun. Et en ça, voilà, c'est un Dieu qui se fait pauvre et qui se fait vulnérable pour pouvoir venir être avec nous dans nos moments les plus difficiles, les plus vulnérables.
Mais donc elle a voulu, cette fondatrice, en fait, que s'incarne cette vulnérabilité, y compris dans votre vie, par cette mendicité
Je le dirais.
Comment se fait le lien?
Je le dirais pas comme ça. En fait, c'est simplement que c'est... Voilà, dans cette découverte de ce Dieu-là, il y avait aussi une recherche de vivre une vie pauvre, parce que Jésus s'est fait pauvre, comme tous les religieux font le vœu de pauvreté, donc une vie pauvre, et avec beaucoup de prières. Et en vivant, petit à petit, elle s'est rendue compte que cette pauvreté que le Seigneur lui demandait, c'était pas simplement d'avoir très peu d'argent, c'était vraiment de vivre de la providence, c'est-à-dire de vivre de la bonté de Dieu qui passe à travers les hommes. C'est d'attendre que, soit en demandant, soit parce que ça vient tout seul à la maison parfois, mais de vivre de ce qu'on reçoit. Et c'est ce qu'on, depuis plus de 30 ans, c'est comme ça que vit la communauté. Pas comme une aventure, mais vraiment comme un appel de Dieu, de dire voilà, nous on est, le Seigneur dans notre vie particulière nous demande de faire cette expérience, qu'il prend soin de nous comme un père, de toutes les manières, et notamment de la manière la plus matérielle possible, la nourriture, etc. Soit en allant frapper aux portes comme on le fait, soit en recevant à la maison aussi par les gens qui nous connaissent ou par d'autres moyens. Et cette manière d'aller frapper aux portes, elle n'est pas du tout une invention, c'est ce que Jésus fait vivre à ses apôtres dans l'Évangile.
Alors, est-ce que vous pouvez nous, pendant la pause, vous racontiez deux récits, parce que vous allez toquer à des portes très différentes et les accueils sont variés. Est-ce que, en écho à ce que vous avez partagé pendant cette pause musicale, vous pouvez nous dire deux types d'accueils qui vous sont faits, qui peuvent nous aider peut-être aussi, tout à chacun, à nous préparer à la venue de Jésus à Noël? Allez-y, Sœur Marie-Ève, peut-être. Ou commencez-vous, Sœur Anastasia, est-ce que vous parliez des beaux quartiers?
C'est pas spécial. En tout cas, on va partout. On va partout quand on sort de chez nous. On prie le trio de petites sœurs qui sort pour aller mendier. On prie et on choisit ensemble dans la communion fraternelle où on va. Ça peut être n'importe quel quartier. Et surtout, on va où on connaît pas. Et voilà. Et quand on commence à frapper aux portes et on sait pas qui est derrière. Et une des missions qu'on a vécues à Toulouse cette année, on frappait donc aux portes et la première porte s'ouvre. Sur une dame très surprise, une maman très surprise de nous voir et qui nous dit « Mais vous n'avez pas à manger, mais chez vous, vous n'avez pas ce qu'il faut pour manger. » Et alors on lui dit « Non, mais c'est notre vie, on va frapper aux portes, c'est pour demander. »
L'église ne vous nourrit pas, c'est même ce qu'elle
dit. Parfois, il y a des gens qui nous disent ça, effectivement, et alors on explique que c'est effectivement... c'est notre appel d'aller frapper aux portes pour demander notre nourriture aussi pour la rencontre. Et cette dame, nous tellement surprise, nous a dit « Mais écoutez, si vous voulez, rentrez chez moi pour manger. »« Ah pardon, moi je ne suis pas croyante, hein, mais vous pouvez quand même rentrer. » Elle s'excusait de pas être croyante alors qu'elle nous ouvrait ses portes, quoi.
Et alors vous racontiez, sinon, vous disiez que parfois, Sœur Marie-Ève, que vous étiez accueillie par des gens qui étaient pauvres, et que en tout cas ces personnes, souvent qui sont pauvres, font un accueil un petit peu différent. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous racontiez pour la pause?
C'est vrai que les personnes les plus pauvres qui n'ont rien sont très heureuses de donner et pour eux, ça leur rend une dignité de pouvoir être celui qui donne. Et je pense à une femme qu'on a frappée à la porte de son appartement et elle nous a ouvert et elle a dit « Mais justement, j'étais en train de prier et pourquoi vous venez ?» Voilà, je commençais une neuvaine pour une intention particulière et vous venez, mais « Ah, mais vous n'avez pas à manger !» Ah bah je vais voir, rentrer. Puis elle nous a fait rentrer chez elle et elle nous a préparé à manger. Et elle nous a confié aussi sa vie, vraiment une vie de souffrance depuis toute petite. Enfin, elle avait des parents qui buvaient, elle avait été placée. Mais vraiment là, elle a fait une expérience que le Seigneur ne l'avait jamais abandonnée. Et elle nous a donné généreusement et en partant elle nous a dit mais... Vous m'avez honoré en venant chez moi, vous m'avez rendu ma dignité en me demandant à manger à moi.
Alors, Père Bernard Bassuy, pour faire écho peut-être à ce qui vient d'être partagé, les chrétiens donc, croient donc à la venue de Jésus donc, dans ce monde, qui est Dieu fait homme. C'est déjà pour beaucoup qui ne croient pas un très grand mystère que de croire que Dieu existe. Pour d'autres religions, de croire que Dieu s'est fait homme, c'est un scandale. Mais alors en plus, un Dieu pauvre, on a envie de dire pourquoi ? Pourquoi Dieu a voulu se faire pauvre comme ça ? À quoi ça lui sert ?
Mais ça part déjà ne serait-ce que d'une chose que Saint Jean nous révèle, mais que le Christ, dans sa vie, nous signifie clairement. Dieu est amour. Et à partir du moment où on aime, que ne ferait-on pas pour l'être aimé ? Il suffit que les gens regardent, lorsqu'ils vivent un amour authentique dans leur vie, ils sont prêts à se dépouiller de tout pour que l'être aimé ait tout ce qu'il faut. Que ce soit un enfant, que ce soit une épouse ou un époux, bref, que de gens sont prêts à faire don d'eux-mêmes quand ils ont quelqu'un à aimer et qu'ils aiment en vérité. À ce moment-là, on déploie des énergies incroyables. D'ailleurs, dans les chansons, il y a marqué « J'irai jusqu'au bout du monde ». Si tu me le demandais, Edith Piaf, dans une chanson, etc., c'est significatif, si vous voulez, de l'amour authentique.
Et quel est le rapport avec le mystère de l'incarnation dans ces cas-là, avec le fait que Dieu se fasse pauvre ?
Tout simplement, Dieu a voulu démontrer qu'il nous aimait en venant justement chez nous.
Il a voulu faire la preuve, en fait, d'une certaine manière.
Oui, d'une certaine manière. Et en même temps, en nous invitant à atteindre ce qu'il est lui-même, cette dignité qui nous fait fils de Dieu, enfants de Dieu, nous aussi. C'est Saint Paul qui le dit aussi, ça. Mais je pense que c'est très très important de s'imaginer que l'amour de Dieu a été fou à ce point qu'en se faisant homme, il nous invitait à entrer véritablement dans la famille divine. Vous vous rendez compte? Un petit peu, moi je ne sais pas quoi. Et effectivement, il est des moments dans notre vie où on se trouve tout à fait entouré d'une espèce de tendresse, de délicatesse, de bonheur qu'on n'arrive pas toujours à s'expliquer. Et c'est souvent parce que justement, on a fait le pas du don de soi-même à un moment où on ne s'imaginait pas pouvoir le faire. Et même au risque quelquefois de se dire on s'est fait avoir. Mais même si je pense que c'est très important.
Mais qu'est-ce qu'il avait besoin de naître dans une crèche? C'est-à-dire qu'il aurait pu déjà s'incarner, comme vous dites, c'est déjà une preuve d'amour incroyable pour l'homme, puisque quelque part il se fait l'un des siens, mais pourquoi aller jusqu'à naître dans une étable, dans une crèche? Aujourd'hui ça pourrait être, je ne sais pas, dans un squat ici à Toulouse.
Parce qu'à mon avis, il voulait entamer la vie comme la vie d'homme, avec les circonstances qui étaient les siennes à l'époque, avec ce recensement, ce déplacement, etc., d'une manière toute simple. Et en même temps, pour nous annoncer une chose qu'il a vécue tout au long de sa vie, c'est cet esprit de pauvreté que les sœurs vivent à leur manière et en même temps que nous sommes tous invités à vivre. Aujourd'hui, il y a dans le monde bientôt pas suffisamment de quoi faire nourrir la planète tout entière. Bon, mais peut-être ça devrait nous inviter quelque part à se dire que nous aussi, nous avons à avoir un esprit de pauvreté qui fait qu'on essaye de faire en sorte que chacun s'y retrouve.
Alors, quand on dit que Dieu s'est fait pauvre, je crois qu'il y a un mot qui s'appelle la kénose, qui dit que Dieu, en fait, c'est comme abaissé. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Dieu est pauvre? Parce que si Dieu est Dieu, il est tout puissant, il est infini. Est-ce que c'est un qualificatif, d'une certaine manière, qui est pas un peu impropre, humaine?
Oui, mais c'est parce que c'est une vue humaine que nous avons des schémas de voir un Dieu qui est à l'image de nos hommes politiques ou autres, des hommes qui ont de la puissance dans le monde, on l'imagine comme ça. C'est une erreur, puisque Jésus vient nous démontrer que Dieu, justement, il se met à la portée des autres. Et ça me paraît comme une démarche très importante. Combien de gens aujourd'hui se mettent à la portée des autres? C'est pas évident. On vit dans un univers très individualiste, et je crois que cette démonstration d'un Dieu qui s'abaisse, c'est justement pour ensuite qu'il soit relevé. Il suffit de prendre dans l'épître aux Philippiens, il est marqué qu'il s'est fait obéissant le Christ jusqu'à la mort pour faire don de sa vie, et c'est pourquoi le Seigneur l'a élevé et lui a donné la gloire. Nous sommes tous invités, dit Paul, à être héritiers du royaume des cieux, mais encore faut-il que nous ayons dans la vie une démarche qui soit donnée aussi significativement que celle du Christ, avec nos petits moyens certes, mais sûrement quand même.
Petite sœur Marie-Ève ou petite sœur Anastasia, comment vous comprenez et comment vous pourriez expliquer aux auditeurs cet intitulé « Dieu se fait pauvre » parce que le père Bernard Berthuit nous l'a expliqué. C'est vrai qu'on quand on contemple la crèche, on entrevoit, mais il y a toujours comme une contradiction dans ce terme en fait entre Dieu et pauvreté. Petite sœur Anastasia.
En tout cas, c'est vrai que j'avais dans le cœur qui venait, dans le récit qu'on a lu au début, le récit de la nativité. Donc voilà, Jésus se fait naît dans une crèche, dans une grotte, dans un lieu très pauvre. Et on voit que les premiers qui vont l'adorer, les premiers qui vont le voir, les premiers à qui les anges même apparaissent pour le dire, c'est les bergers. Et en fait, nous, on ne se rend pas compte, mais à cette époque, les bergers, c'est vraiment les personnes les plus pauvres, les marginalisés, ceux qui étaient vraiment qui faisaient le métier, qui étaient sur le bord de la société d'une certaine manière, ceux vers qui le pape François nous envoie. Donc les premiers qui vraiment vont adorer, qui sont prévenus de cette naissance, c'est les bergers, c'est les plus pauvres. Et je vois qu'il y a pas longtemps, là, en mangeant dans un restaurant social, on parlait avec un homme qui était là. Et puis à un moment, il a ouvert son cœur et c'était très très beau parce que il m'a dit, mais ma sœur, moi, il y a plusieurs années, j'étais dans une période vraiment très difficile. J'aurais voulu tuer tout le monde, quoi. Vraiment, j'étais en colère, ça n'allait pas du tout. Et à ce moment-là de sa vie, il a fait l'expérience d'être aimé sans condition, mais aimé entièrement. Voilà, il a fait l'expérience que Dieu l'aimait à ce moment-là. Et depuis, en fait, il a dit, mais j'ai mis des années, j'ai lutté pour accepter cette expérience, parce qu'on n'a jamais envie de changer de vie, en fait, même quand on a fait une aussi belle expérience. Mais j'ai lutté et je veux vraiment changer de vie. Et je sais aussi que chaque homme, quoi qu'il ait fait, est aimé de cette manière. Il le sait parce qu'il en a fait l'expérience. Donc Dieu, dans son moment de misère, s'est fait là, proche, présence. Et je crois que c'est la même chose dans la crèche avec les bergers.
Petite sœur Marie-Ève, peut-être pour finir cette partie, vous nous disiez en préparant l'émission que souvent les personnes que vous croisez, puisque donc vous allez mendier votre nourriture, mais vous allez aussi à la rencontre des personnes qui sont dans la rue, parfois des personnes seules, vous dites que vous allez manger dans des restaurants sociaux à Toulouse et puis ailleurs en France, là où sont les communautés, souvent le mystère de Noël ou le mystère de la nativité ou la présence de Dieu dans une vie s'éclaire de manière particulière, alors peut-être pas systématiquement, parmi ces personnes qu'on qualifie de marginaux que vous croisez. Est-ce que vous pouvez nous partager ça? Parce que nous, c'est pas, peut-être pas notre expérience quotidienne.
Je pense en ce moment aux populations roms qu'on va visiter régulièrement à Toulouse. Il y a un petit campement de roms à Toulouse. Avec des familles avec qui on a lié amitié. Et c'est vrai qu'elles ont hâte de fêter Noël et que Jésus vienne. Elles décorent déjà aussi leur cabane, elles n'ont rien, un matelas, et c'est vraiment des cabanes de briques et de broc. Mais une icône de Jésus, une image de Noël, un sapin. Et l'année dernière, on a pu aller célébrer Noël avec elles et faire une crèche vivante avec les enfants. On avait habillé les enfants comme la Vierge, Joseph, et vraiment il y avait une joie qui était très grande avec ces familles.
Voilà, ça me fait penser à une phrase du pape François que vous avez certainement entendue quand il disait à propos du communisme, le communisme nous a volé le drapeau de la pauvreté. Voilà, alors peut-être que le mystère de Noël c'est ça, c'est recouvrir le drapeau de la pauvreté, mais bon, c'est pas moi normalement qui répond aux questions, je me permettais juste de faire cette incise. On fait une deuxième pause musicale, et puis après vous allez nous donner quelques petits conseils pratiques pour essayer de rentrer dans l'avant et nous préparer au mystère de Noël.
À Tarascon sur Ariège, 100.2.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Entrée dans l'Avent, avec, si vous nous prenez en cours de route autour du plateau, le père Bernard Berthuis, qui est curé de la paroisse Saint-Nicolas à Toulouse et fondateur de cette radio, et les petites sœurs Marie-Ève et Anastasia, petites sœurs de la communauté de l'Agneau, qu'elles nous ont présentées un peu plus tôt dans cette émission. Petites sœurs donc, de spiritualité dominicaine et franciscaine, installée entre autres à Toulouse et qui vit, en tout cas comme particularité entre autres, de vivre de la Providence très concrètement, puisqu'elles mendient leur nourriture jour après jour. Alors, en cette fin d'émission, je vous ai demandé les uns les autres de nous préparer quelques petits conseils pratiques pour essayer de rentrer dans l'Avent. Ma première question ira vers vous, sœur Anastasia, en communauté. Je ne sais pas, est-ce que vous avez mis un sapin dans votre communauté? Est-ce que vous avez fait une crèche? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous avez installé pour vous aider à rentrer dans l'Avent?
Alors nous, on est une communauté monastique, donc on ne fait pas exactement comme dans une famille à la maison, mais pas de sapin. Et pour la crèche, c'est vrai qu'on a plutôt une icône qui représente la crèche, qui va arriver bientôt. Mais pendant le temps de l'Avent, on a l'icône de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste qui tendent la main et qui présentent en fait Jésus qui vient, soit une autre icône de Jésus, soit l'agneau qui représente Jésus. Et ça nous permet de savoir que voilà, Jean, celui qui annonce
Jésus, Jean-Baptiste, faut préciser, donc c'est le dernier,
dernier prophète, le cousin de Jésus aussi, celui qu'on voit dans les débuts de l'évangile, qui annonce la venue de Jésus et puis qui le montre quand il va baptiser Jésus. Et il va dire que c'est lui l'élu de Dieu. Et puis la Vierge qui est vraiment celle par excellence qui nous montre Jésus et qui l'attend et qui nous apprend à l'attendre et à l'accueillir.
Père Bernard Berthuis, même chose. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous faites dans votre paroisse pour aider les fidèles à...
Mais bien sûr, il y a la crèche, d'une part. Mais il y a l'invitation aux paroissiens à essayer de faire un effort particulier. Peut-être en ayant beaucoup de retenue sur les achats qu'ils peuvent faire, afin justement d'avoir une part à donner à d'autres qui en auraient besoin. Et de le décider en famille, avec les enfants et tout le monde, que tout le monde y apporte sa contribution, de manière à ce que Noël soit aussi... j'allais dire un bonheur pour ceux qui, déjà au quotidien, triment pour gagner leur vie.
Donc, vous, c'est la crèche et puis une invitation à ne pas trop dépenser à Noël.
À donner.
Alors, il y a autre chose que vous vouliez souligner, sœur Marie-Ève, c'est l'importance peut-être que peut prendre la parole de Dieu à l'occasion de l'Avent. Et qu'est-ce que vous donneriez comme piste aux auditeurs à la lumière de ce que vous vivez dans votre communauté?
Je recommanderais de lire chaque jour l'évangile, parce que c'est vrai que l'Église a choisi des évangiles propres pour l'Avent qui nous conduisent vraiment vers Noël et qui préparent notre cœur. Et dans la communauté, on pratique la manducation. Alors, ça vient du latin manducare, qui veut dire mâcher, ruminer. C'est-à-dire que concrètement, on répète chaque verset, chaque phrase de l'évangile trois fois, et plus après en temps personnel. Mais tout le monde peut faire cet exercice.
À chaque fois que vous lisez la parole en communauté, vous la lisez trois fois d'affilée?
Trois fois chaque phrase, chaque verset.
D'accord.
Après la proclamation de l'évangile. Et pour la mémoriser et vraiment écouter la parole. Au lieu de l'entendre une fois, en la répétant, je demande au Seigneur qui est-il, qu'est-ce qu'il me dit dans cet évangile et à quoi il m'appelle concrètement aujourd'hui. Parce que voilà, la parole de Dieu, c'est une parole vivante et qui me dérange et qui m'appelle à la conversion. Chaque jour. Et voilà, chacun peut prendre l'évangile du jour et le répéter lentement pour vraiment écouter qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi personnellement aujourd'hui.
Voilà, donc c'est-à-dire on prend un passage de l'évangile et on le lit une fois, deux fois, trois fois et puis on essaie de demander en fait donc quel écho ça peut trouver dans notre vie tout simplement.
Voilà.
Père Bernard Berthuis, est-ce que vous incitez aussi vos paroissiens à cette lecture de l'évangile particulière?
Tout à fait. Il y a une personne à la paroisse qui, toutes les semaines, durant toute l'année, fait réfléchir une fois par mois, c'est pas souvent certes, eh bien les gens qui veulent venir à ces réflexions, à ces méditations d'évangile, et ils passent une heure et demie ensemble autour des textes. Voilà.
Vous avez un commentaire sur Anastasia?
En tout cas... Ce que je relèverais, c'est vraiment ce qu'a dit Marie-Ève, la parole de Dieu, elle est vraiment concrètement, elle nous appelle à un changement chaque jour, et ça peut être, ça concerne tout le monde dans ce cas-là, parce que c'est vraiment, je lis la parole, et moi, aujourd'hui, concrètement, à quoi elle m'appelle, quoi, à quel pas de conversion on dit, mais c'est à quel changement ça peut être simplement de s'arrêter, dire bonjour à quelqu'un devant qui on passe, le pauvre qui est assis devant qui on passe et on s'arrête pas. Ça peut être mille choses différentes, mais en tout cas, c'est très concret, c'est très incarné. Jésus est venu dans la chair et s'est incarné pour changer notre vie.
Alors, Père Bernard Berthuis, pour finir, vous aviez une autre lecture peut-être à nous suggérer en ce temps de l'Avent.
J'ai eu plutôt une sorte de simplicité à vous offrir. Par exemple, les gens se posaient la question pourquoi il y a un âne et un bœuf à la crèche. Et bien c'est en pensant à une phrase du prophète Isaïe qui dit que l'âne et le bœuf reconnaissent la crèche de leur maître. Et toi, mon peuple, mes amis, tu ne me reconnais pas. C'est une manière comme une autre, cet âne et ce bœuf, de dire qu'eux sont venus à la crèche et que tout humain est invité justement à recueillir et accueillir cette parole du Christ et accueillir le Seigneur qui est là, présent justement, dans ce bébé de la crèche.
Et vous vouliez aussi nous parler donc de Maurice Zindel.
Ah, Maurice
Est-ce que vous pouvez redire qui est Maurice Zindel peut-être avant?
Oui, Maurice Zindel est un prêtre qui a marqué beaucoup le siècle précédent. Il est décédé en 1975, mais avant il a beaucoup écrit, ça n'a pas été facile pour lui. Mais lui, il nous invite à nous désapproprier, c'est le terme qu'il utilise. C'est-à-dire se déposséder de soi-même et de ses biens aussi, d'une certaine manière, pour se mettre en disponibilité aux autres, ce que Jésus fait à Noël, en venant, en se dépossédant de la divinité, j'ose dire, pour se faire homme, et afin justement, dans cette humanité, de signifier où on atteint à la divinité, lorsqu'il est sur la croix, qu'il fait don de sa vie, et que cette vie, tout amour, donne vie et ressuscite. Et je pense que c'est ça qu'il faut reconnaître, et puis retenir aussi de la vie de Jésus et de la crèche.
Voilà, bah écoutez, on espère en tout cas que cette émission a aidé tout à chacun à comprendre quelque chose, comprendre un peu plus ce mystère et à entrer dans ce temps de l'Avent. Merci beaucoup à tous nos invités d'être venus nous parler donc de l'Avent et de Noël. Et donc je rappelle les petites sœurs de la communauté de l'Agneau, voilà, une communauté à découvrir à Toulouse, évidemment aussi la paroisse Saint-Nicolas. Cela va sans dire. Merci beaucoup, cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.